Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur votre radio mondiale en cette fin d'après-midi pour évoquer le premier choc de la Ligue des Champions. Ce sera ce soir à Munich, le Bayern reçoit le Real. Les Bavarois ne seront pas champions cette année et ils ont tout misé sur leur saison européenne. Mais les Meringues, à qui leur entraîneur laisse la bride sur le cou, vous l'entendrez, arrivent auréolés de l'élimination des Citizens avec un appel petit d'ogre dans leur compétition. On va largement s'arrêter sur cette rencontre si prometteuse. Barcelone Olympique Lyonnais, ce sera la finale de la Ligue des Champions. Les filles de ces deux clubs se sont qualifiées au cours du week-end. Un air de déjà-vu pour cette affiche. Les Lyonnaises ont déjà vaincu deux fois les Catalanes, les tenantes du titre actuel. Mais une joueuse du PSG venue du Malawi, l'attaquante Tabitha Chawinga, a été désignée meilleure joueuse du championnat hexagonal. Invité dans ce studio aujourd'hui, nous avons Benjamin Mokanjo. Bonjour Benjamin.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là aujourd'hui pour faire des pronostics sur cette Ligue des Champions. J'attends ça de vous.
Ça ne va pas être facile parce que vraiment, les quatre équipes, notamment le match de ce soir, celui qui a le bon score, franchement, j'ai souvent été pas mauvais dans cet exercice, mais je crois qu'aujourd'hui, je laisserai ma place.
Vous êtes dépassé. On l'est tous un peu, je crois. Nous avons un Espagnol dans la place, il va nous décoder tout cela. Bonjour Carlos.
Hola, hola, hola. Bonjour Annie.
Comment estas?
Très bien, tranquille. Tranquille,
tranquille. Ouais. Ça va être chaud.
Il est supporter du Barça, Carlos, donc il est tranquille, ça va être ça alors.
Non, il n'est pas supporter ni du Barça ni du Real.
Oh là là.
Ça existe en Espagne.
Il connaît tous mes secrets.
Je vais vous dire son secret, il est supporter de Levante, comme ça, aucun problème.
Ah oui, mais là il est tranquille. Hein. Là il est échappé, il ne connaît pas.
Hein, on est très tranquille cette année.
Et puis donc, Salim Bongali, bonjour Salim.
Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez un œil sur les Européens et les Européennes.
Absolument.
Hein, n'est-ce pas? On parlera garçons et filles. Pierre Guérin m'a aidé à préparer l'émission avec David Finzel. David Brockway est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Odegaard, finds Martinelli. Straight at Neuer. Arsenal's best chance so far.
Ballon dans les pieds de Guerrero qui s'entra sans oui. Cours. Oh, le Bayern. Il est arrivé comme une fusée. Joshua Kimmich. Le Bayern dominateur dans ce début de deuxième période est récompensé.
Yeah, unbelievable win.
Mais qui est l'ogre de cette première demi-finale de Ligue des Champions d'habitude? Et vous l'avez entendu, on aurait tendance à dire que c'est un ogre bavarois de ce club de Munich sacré année après année champion comme ses 11 dernières saisons, d'où son autre surnom de Rekordmeister. Pardon à David Lortolari pour l'accent qui n'y est sûrement pas. Mais ce soir, on aurait envie de traiter d'ogre les Madrilènes qui avalent leurs adversaires sur leur passage. On va en parler des Madrilènes, Carlos. Mais d'abord, il faut dire que le Bayern ne va pas fort. Cette année, il a cédé la couronne et le bouclier de champion au Bayer Leverkusen, étant un petit dauphin relégué à 12 points au classement, ce qui laisse ses supporters bien désappointés. Écoutez ces inconditionnels du Bayern, suivis en Allemagne par Julien Méchaussier.
Un samedi après-midi de Bundesliga plutôt tranquille dans ce bar où se retrouvent les membres du Bavaria Spandau, association de supporters du Bayern. Victoire de Buzyn face à Francfort et tous sont conscients que le Bayern a raté sa saison en championnat. À l'image de Marcel Kutscher, tatouage imposant du Bayern sur le bras.
Nous sommes clairement un club en chantier. Il y a tout à refaire. Nous avons bien sûr les moyens financiers pour ça. Mais faire le triplé dès l'année prochaine, après avoir reconstruit toute l'équipe, ça s'annonce très difficile.
Annonce du départ de l'entraîneur Thomas Tuchel en fin de saison. Tension à tous les étages. Le Bayern traverse sa plus mauvaise saison depuis 11 ans. pour l'ancien joueur du club, Dietmar Hamann, la réponse négative de Xabi Alonso, l'entraîneur de Leverkusen, pour reprendre le banc du Bayern, est un symptôme qui ne trompe pas.
Quand vous avez un entraîneur qui n'arrive pas à se décider, qui vous dit qu'il a besoin de plusieurs semaines pour réfléchir, il est non seulement le mauvais candidat pour le Bayern, mais cela démontre aussi que le Bayern a perdu de sa grandeur et de sa suprématie en Allemagne.
Un Bayern qui a perdu sa suprématie au niveau national, mais qui compte bien retrouver sa grandeur en Ligue des Champions face au Real Madrid, dans une compétition qui s'est déroulée jusqu'ici sans accroc.
Saison ratée donc pour ce club qui est en pleine mutation, transition, mais on en parle déjà depuis quelques saisons quand même. Justement, c'est en Ligue des Champions que le Bayern se surpasse. Est-il pour autant convaincant, Benjamin ?
En Ligue des Champions ?
Oui.
Ouh là !
Ils sont en demi-finale quand même.
Oui, mais par moment, on a vu quand même contre la Lazio, ils se sont fait bouger. Le match aller était très difficile. Ils ont perdu d'ailleurs au match aller. Au retour, c'est vrai qu'il y a eu du mieux. Harry Kane qui marquait plus un moment, qui revient, il recommence à marquer. Mais moi, je pense qu'en championnat, bon, on parlait tout à l'heure, 11 ans où ils ont gagné à chaque fois le championnat, c'est cette année, ils perdent parce qu'en face, il y a une équipe de Leverkusen qui est largement au-dessus de tout ce qu'on aurait pu espérer. Et ce Bayern, où je crois que le problème a été aussi par moment des choix, on a décidé de changer d'entraîneur. Thomas Tuchel qui est arrivé, où il a modifié quelque peu son équipe, il ne faisait pas confiance aux anciens. On a vu Müller qui était rétrogradé sur le banc, et un coup du jour au lendemain, il refait appel à Müller parce qu'il a besoin d'un cadre pour tenir son vestiaire. Il y a eu beaucoup de choses, et puis à la fin, il annonce qu'il partira à la fin de la saison. Ben, c'est une année un peu difficile pour eux, mais je pense que le Bayern reste toujours un ogre, reste toujours une grande équipe, et c'est une équipe qui n'aura pas forcément besoin de tout recommencer à zéro, parce que le talent, ils ont, les joueurs, ils ont. Maintenant, il va falloir trouver l'entraîneur qui va pouvoir remettre tout en place.
Oui, exactement. Les remettre sur les rails. Alors, si on parle d'institution, parce que là, pour l'instant, on s'attache à ce club, il y a 14 victoires du côté du Real, il y en a 6 du côté du Bayern, mais elles sont assez récentes aussi, celles du Bayern. C'est pas de l'histoire que ancienne. Ils ont gagné en 2020, ils ont gagné en 2012.
COVID,
voilà. Les deux fois. C'est quand même, par rapport au Real, évidemment, qui depuis en a accumulé beaucoup plus, mais en tout cas, il y a quand même deux institutions face à face.
Bien sûr, ben, encore une fois, vous l'avez dit, 6 trophées, il n'y a que l'AC Milan et le Real qui ont gagné plus de Ligue des Champions que le Bayern. Donc déjà, en termes d'institutions européennes, c'est le cas. Et puis, ce club du Bayern, alors, mis à part, vous allez me dire, il y a eu certaines saisons où il y a eu des échecs, c'est à la base une équipe qui va très loin dans la Ligue des Champions régulièrement, qui arrive en quart, en demi, assez facilement, assez aisément. Mais c'est vrai que cette année, alors il y a une dichotomie entre le championnat où vous avez une équipe. D'ailleurs, il faut bien rappeler une chose très importante, les chiffres sont pas ridicules en fait en termes de points par rapport aux dernières saisons où vous avez été champion. C'est pas ridicule ce que fait le Bayern, c'est juste que vous avez une équipe qui est tellement au-dessus de celle du Bayer Leverkusen, c'est par séquence.
Mais l'année dernière, on se souvient qu'ils avaient gagné à la dernière minute.
Absolument.
Face à Dortmund. À Dortmund, ça s'était joué à très peu. Donc,
ils
étaient peut-être sur la corde depuis aussi, corde raide depuis quelques
temps. C'est vrai que cette année, là, ce qu'on a vu notamment, c'est beaucoup de choix de la part de Thomas Tuchel. Par rapport aux dernières saisons, on avait quasiment un 11 qui évoluait très peu. Ben, cette saison, la défense centrale, où il y a beaucoup d'hésitations. Kimmich, Eric Dier, Kimmich qu'on ressente, même Kimmich a joué défense centrale hein, par séquence, Upamecano, il n'a jamais fixé sa défense centrale. Au milieu de terrain, beaucoup de blessés également. Dans la cage, Neuer qui a été souvent blessé, résultat, on a dû compter sur le deuxième. Heureusement qu'Harry Kane était là, parce qu'au final, les ailiers, Coman, pas inintéressant, mais régulièrement blessé. Gnabry, moins bon, Leroy Sané, moins bon. Bref, vous avez au final un manque de confiance, des joueurs qui sous-performent, un Tourelle qui fait beaucoup tourner. Donc, vous avez une saison très bizarre en championnat. C'est vrai que c'est très bizarre, au final, de voir les performances en Ligue des Champions en se disant, mais comment ils peuvent être aussi moyens à leur niveau, j'entends, en championnat, et au final, être en demi en Ligue des Champions. C'est une surprise, au final, vu leur saison, encore une fois.
Carlos, comment ?
Et demi-finaliste, quand même.
Ben oui.
Il faut dire que la Ligue des Champions, c'est complètement différent à tous les championnats nationaux.
Voilà.
Ça, on commence. Je vais aller point par point. Tu parlais des ordres. Tu sais qu'en Espagne, la bête noire, l'or de Real Madrid, c'était toujours les Bayern.
Absolument. Oui, mais d'ailleurs, quand on voit les statistiques, parce qu'il y a des statistiques qui se sont déjà rencontrées 26 fois, et il y a 12 victoires pour le Bayern et 11 pour le Real. Si on s'en tient aux statistiques, alors après, ça dépend.
C'est que ça peut changer, voilà. Parce que les trois dernières victoires, les trois dernières victoires sont pour le Real Madrid aussi. Hein, ça, il faut les noter aussi. Mais c'est complètement différent. Je suis par rapport à mes collègues.
Comment on voit le Bayern d'Espagne, Carlos ? Comment on le considère ?
On les voit toucher c'est un Bayer très touché psychologiquement, mais capable de faire exactement pareil, les mêmes parallélismes que le Real Madrid. Et ça veut dire que l'éliminatoire, pour moi, ça va être très équilibré, même si le Bayer est très similaire au Real Madrid, même s'il est mal dans la Bundesliga, il a la capacité de donner un plus face au Real Madrid. Pour moi, c'est la 12e finale consécutive de Real Madrid, mais les Bayern n'étaient pas favorites face à Arsenal non plus. Arsenal. Hein. Ils les ont vécus un petit peu à ça, donc il faut se rappeler qu'il y a 2 matchs seulement pour rentrer dans la finale et tout est possible. Pour répondre à la question, il y a beaucoup de prudence. Hein. Beaucoup de prudence en Espagne.
Je pense qu'à ce niveau-là,
mais ces favoritismes, ils ont été capables de l'élever, même si pour moi et pour les maisons de Paris, tout ça, le Real Madrid, c'est favori. En Espagne, ils sont très calmes par rapport à ça. Ils ne vont pas
chanter victoire avant.
Voilà.
En tout cas, il faut donc sauver l'institution Bayern. C'est la mission du groupe, de l'entraîneur aussi. Et pour gonfler les esprits des troupes, eh bien, rien de mieux qu'un homme dans l'équipe, un leader plutôt incontesté, sauf peut-être par Thomas Tuchel, c'est un autre Thomas, évidemment, Thomas Müller.
Ah, oui.
Il adore envoyer des petits messages, vous le savez, à travers les réseaux sociaux avant un match. Alors, on se souvient de son message un peu malheureux face au Paris Saint-Germain.
Paris, hein.
Il avait un peu raillé avant le match. Bon, mais c'est un bon joueur, quand même. Il est pas un mauvais perdant. À l'époque, il avait dit bon, bah, ok. Et là, il a fait un message un peu moins provoquant, mais il a fait sur les réseaux sociaux. Écoutez-le, Thomas Müller.
Salut à tous, on va disputer un grand classique du foot, le Bayern contre le Real Madrid, ici dans notre stade. C'est une affiche exceptionnelle, chers supporters, venez tous en rouge, fouillez vos affaires et trouvez du rouge. Sinon, débrouillez-vous, achetez quelque chose qui corresponde à nos couleurs. Allez le Bayern, allez les rouges.
Achetez un maillot de foot qui coûte 90 ou 100 euros, s'il vous plaît.
Non,
voilà.
il le dit pas.
Il est très prudent, hein, parce qu'il adore taquiner.
Il
est très très prudent, sachant de ce qu'il a l'habitude
de
faire.
C'est pour ça que je voulais l'écouter, parce que c'est beaucoup plus...
Ce message-là, c'est un appel au public.
Exactement.
Parce qu'il sait que face à cette équipe du Real, qui est difficile à manœuvrer, qui est difficile à jouer...
C'est ce qu'on sent dans ce message.
Voilà,
hein.
Donc il sait qu'à ce moment-là, il aura besoin du public, d'autant plus que ce match aller, il est à domicile. Ils savent qu'il faut marquer les esprits, il faut marquer le coup d'entrée. Parce qu'au retour au Bernabeu, ça va être compliqué. Donc il fait un appel à ce qu'ils soient nombreux à le pousser jusqu'au bout.
Allez, pousser vers la victoire.
Et juste, on rappellera toujours que Thomas Müller, c'est vrai qu'on voit ce grand dadais milieu de terrain offensif ou attaquant, ils ont été un peu qui n'a jamais été transféré
dans son seul club,
qui je rappelle quand même a marqué 54 buts en Ligue des Champions dans sa carrière. 54 buts, c'est le deuxième meilleur buteur en activité, hein, derrière Lewandowski, et il est 6e ou 7e meilleur buteur dans l'histoire de la Ligue des Champions. Voilà, c'est pas un joueur lambda, même si évidemment il y a eu d'autres grands buteurs devant lui, des Lewandowski, Kane désormais et autres, mais c'est une machine.
Non, et il a un rôle, surtout on le voit sur l'équipe, même si des jours il est moins bien. Même s'il n'est pas titulaire, il en est à 703 matchs sous les couleurs du Bayern. Le record, c'est Sepp Maier, c'est 709. Donc, on
c'est un joueur indispensable de vestiaire.
Il est absolument extraordinaire.
L'institution, voilà.
Alors, une équipe quand même, et c'est ça peut-être l'inquiétude, Salim, il y a beaucoup de blessés, en tout cas, beaucoup de doutes sur certains joueurs. On ne sait pas, il y en a qui sont quand même alignés dans les compositions présentées par des confrères, mais on a quand même Moussiala, qui est un jeune, un virevoltant et important. On a Leimer, on a le roi Sané qui est... alors, Serge Gnabry, je crois que c'est déjà sûr qu'il est blessé et qu'il ne joue pas. Lui, je crois qu'il n'est même pas sur le banc des remplaçants. Et puis, on a aussi Upamecano, De Ligt. Donc, ça fait quand même des forces vives. Là, Thomas Tuchel, il aime changer, mais là, il n'aurait peut-être pas aimé changer en demi-finale, Benjamin.
Le truc, c'est qu'il n'aura même pas le choix. Il n'aura pas le choix au vu du nombre de joueurs blessés. Mais le Real aussi a connu ça à un moment donné dans la saison. Ils ont aussi des joueurs qui sont blessés. La différence,
Courtois,
c'est que
Courtois, s'il arrive, il va arriver pour la finale.
Oui. En tout cas. Mais est-ce que il prendra le risque de le faire
en
finale,
non,
il
va pas
qu'il a
faire
jouer toute la saison. Mais la différence, c'est que Carlo Ancelotti, malgré tout ça, a toujours réussi à mettre un 11, pour moi, compétitif, assez équilibré, même si on a vu Tchouaméni parfois jouer défenseur central. Mais pour moi, la grosse perte de cette équipe du Bayern, c'est si Moussiala ne joue pas.
sur le plan offensif.
Je ne pense pas qu'il va... Je pense qu'il va jouer, hein, parce que c'est très déterminant.
C'est de l'intox.
Non, vraiment, pour toutes les informations que j'ai vues, tout ça, il peut arriver au match. Et en plus, ça va être
non,
un
mais
joueur
c'était,
assez
c'était de l'intox qu'il soit blessé et qu'il soit absent. En fait, il serait sans doute présent.
Ben, je ne sais pas. Mais moi, je vais te dire, l'équipe du Real Madrid, selon les derniers entraînements hier qu'il a fait, parce qu'il y avait une grosse doute en défense, surtout, voilà, Lenin, il va jouer dans la cage, ça c'est sûr. Et c'était en défense, parce qu'en fait, en défense, Rudiger, il va jouer comme central, accompagné par... Voilà, c'était la grosse doute pour Carlo Ancelotti. Et en fait, le vendredi dernier, face à la Real Sociedad, il a mis Militao pendant 90 minutes pour tester. Mais il n'est pas très convaincu parce qu'hier, il a mis Nacho à sa place. Et je pense que c'est Nacho qui va rentrer comme défenseur central,
comme
qui va raccompagner. Voilà. Après, c'est tout dit. Lucas Vázquez, il va prendre la place de Carvajal, qui est blessé. De l'autre côté, c'est Mendy sûr à 100%. Mmh. Au milieu... Une autre doute, c'était Tchouaméni ou Camavinga. Ouais. Il paraît que ça va être pour Tchouaméni, non?
Ah oui.
Pour Tchouaméni, finalement, qui va accompagner
à
Valverde. Et il va accompagner aussi Bellingham, évidemment. Et Kroos, que c'est un joueur clé aussi. Ouais,
surtout Kroos, là, à Munich, il va être content de le mettre.
Accompagner l'attaque, évidemment, avec Rodrigo et Vinicius Junior.
Et juste, j'apporte une précision sur Serge Gnabry. En fait, c'est très étonnant parce que la conférence de presse hier de Thomas Tuchel, où Tuchel a été très clair sur Gnabry en disant qu'il jouerait. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est très surprenant parce que pour le coup, il avait l'air blessé, etc. C'est très bizarre parce qu'il a été très sérieux. Vous savez, Tuchel, on sent parfois quand il est pince sans rire, là, il n'avait pas l'air de l'être en disant même de manière très claire, vous verrez, il va jouer et il va marquer. Alors sur le coup, beaucoup ont rigolé en disant comment ça, il va jouer et marquer. Et il était très sérieux en disant ça. Donc à suivre ce qui se passera ce soir.
Salim, est-ce que c'est l'heure de Harry Kane? Parce qu'en Ligue des Champions, on le sent moins à l'aise.
Ah ben c'est sûr, quand c'est pour marquer face à Heidenheim, il est plus là. Hein. Je suis méchant envers les supporters d'Heidenheim qui nous écoutent. Non, plus sérieusement, c'est que Harry Kane, il fait une saison exceptionnelle. 42 buts marqués, toutes compétitions confondues. Il ne l'avait jamais fait. Même à Tottenham, il ne l'avait jamais fait marquer autant de buts.
Donc mais ça, il ne sera pas champion d'Allemagne.
Il n'a pas gagné la Coupe d'Allemagne. Il ne sera pas champion d'Allemagne. Il ne reste que la Ligue des Champions. Voilà,
il faut qu'il attende une saison viège. Hein,
voilà, puisque je le rappelle, dans sa carrière, il n'a toujours pas soulevé un trophée, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que Kane, en Ligue des Champions, et ça a toujours été ça, même lorsqu'il était à Tottenham, même lorsque Tottenham va en finale de Ligue des Champions, c'est pas lui l'homme clé de Tottenham, pour le coup. C'est vrai qu'en Champions, on attend toujours, avec pourtant une carrière assez dingue pour lui en championnat, mais on attend toujours cet immense match, entre guillemets, référence. Il ne l'a toujours pas eu.
Mais c'est ça qui fait aussi la différence entre des joueurs comme Kane et peut-être Mbappé, je mettrais même aussi Haaland. C'est
ou
que
Vinicius,
dans des matchs-là
peut-être
aussi importants, ces joueurs-là, souvent, on ne les voit pas.
Oui, t'as raison.
Kane, on ne le voit pas. Haaland, on le voit très peu. Mbappé, tu le vois régulièrement. C'est ça la différence entre ces joueurs-là qui... Pour moi, Kane, c'est des joueurs comme Haaland qui dépendent énormément du collectif. Et quand le collectif il n'est pas à un niveau exceptionnel, c'est difficile pour eux de faire la différence. Par contre, quand Thomas Vinicius, il n'a besoin de personne pour aller marquer son but. Hein. Il est capable d'éliminer 3-4 joueurs.
Comme on a dit, Salim, vraiment, il a la capacité de mettre des buts. Il a mis pas mal de buts. Et une chose qu'il oublie, ces deux équipes-là sont les deux équipes qui sont attaquées beaucoup plus, qui sont frappées beaucoup plus sur la cage de la compétition. Donc, on va pas s'ennuyer, en tout cas.
Ouais, non, il va avoir des buts.
Il peut avoir des buts qui sont frappés, qui sont rentrés, ça c'est une autre chose. mais par contre, évidemment, les points forts de Real Madrid, et je pense que c'est la grosse doute maintenant en Espagne, c'est s'il va rentrer comme face à
City.
Manchester City,
c'est
évidemment.
Pas possible.
Mais c'est pas possible parce que s'il y a quelque chose que le Madrid il a monté cette saison déjà, pas cette saison, déjà depuis des années, c'est sa facette caméléonesque. Voilà, c'est une équipe
caméléonesque. Non, mais ça se comprend très bien.
C'est vraiment...
Je pense au petit animal, donc le caméléon. Ouais,
c'est
camoufle, change de couleur.
Il est capable de s'adapter à tous les styles de jeu. Ça, c'est le plus fort. Parce qu'on dit, quel est le style de Real Madrid? Le style de Real Madrid est qu'il s'adapte à tous les styles.
Surtout que Carlos...
Mais le Bayern peut-être aussi cette saison.
Surtout qu'il y a une différence, parce que quand vous jouez contre City, moi, je prendrais toutes les équipes européennes qui jouent contre City, va jouer comme... Le Real a joué. Parce que City vous impose une façon de jouer à elle-même. Et aujourd'hui, ce n'est pas City qu'elle aura en face, hein. C'est le Bayern, même s'il y a des qualités dans cette équipe du Bayern.
Mais voilà, mais le City, elle a un style de jeu assez clair.
Oui.
Voilà. C'est que le Real Madrid, il s'adapte à tout. Donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va passer aujourd'hui. C'est par rapport au Bayern que le Real Madrid va jouer. Qu'il va souffrir, évidemment qu'il va souffrir, le Real Madrid aussi. Il y aura des moments, hein.
Ça.
Comme dans tous les moments qu'il y
a on a l'impression que même
ils sont durs au mal.
Pour revenir à votre toute première question, quand vous titillez au sommaire, lors du sommaire Benjamin, en lui disant quelle équipe va gagner, et vous ne saviez pas quoi répondre. Mais en fait, avec nos discussions, pour moi, le Real est au-dessus. Pourquoi, encore une fois, vous avez évoqué Real City, ou plutôt le match retour City-Real. Faire comprendre, et Carlo Ancelotti a réussi à faire comprendre à un Vinicius, à un Jude Bellingham, à tous ces très grands joueurs, qu'il fallait jouer en mode tortue, quoi. Défendre.
Oui.
Quel est le coach, quels sont les joueurs dans le monde actuellement qui sont capables de faire ça et qui, dans le match d'après, sont capables d'attaquer à tout va et de marquer 3-4 buts. Réussir à être si caméléonesque, c'est ce que vous expliquiez, mais c'est une folie. Il y a très peu, si ce n'est même, c'est peut-être la seule équipe dans le monde qui est capable de s'adapter à ce point-là et presque de dire à l'équipe, vas-y, joue comme tu veux, toi, en face, nous, on va s'adapter et t'inquiète pas, on va gagner à la fin.
Ça, c'est quelque chose d'hallucinant parce que ça surprend et en même temps, on dit que voilà, il faut faire comme ça, c'est le foot.
Parce que
le
dire
foot à... dans toutes les étapes et dans toutes les façons.
Dire à Vinicius, qui est censé être le joueur qui vous marque des buts, à juste titre, il le fait en plus, mais lui dire, et pendant 90 minutes, en fait, tu vas pas marquer de but, tu vas juste défendre ou tu vas vraiment faire en sorte de défendre, tu auras un pseudo compte et tu vas défendre. Hein. Et il le fait. Bellingham, le nombre de courses qu'il a fait pendant ce match-là, ce Real est dingue.
Eh bien, l'entraîneur, le fameux Carlo Ancelotti, il dit que, justement, pour ce match, il n'avait pas prévu ou il n'avait pas programmé que l'équipe ne serait que défensive. Et d'ailleurs, le déroulé du match est assez bizarre puisqu'ils ouvrent le score et tout ça. Donc, il y a un scénario auquel ils s'adaptent. Et on va l'écouter parce que hier, Carlo Ancelotti, il a joué un peu la modestie en disant, en gros, j'ai pas le pouvoir, ce sont les joueurs.
Le rôle le plus important n'est jamais celui de l'entraîneur. Pour moi, il y a deux types d'entraîneurs, ceux qui ne font rien et ceux qui font beaucoup de dégâts. J'essaie de faire partie de la première catégorie. Le match appartient aux joueurs et tu peux leur donner une stratégie à suivre, les convaincre. Mais ce qui compte, c'est leur qualité et leur implication. Un entraîneur doit se concentrer sur le fait que le groupe comprenne l'importance du travail en équipe.
Benjamin, est-ce que vous le croyez, Carlo Ancelotti?
Je sais pas si vous mettez Gattuso à la place d'Ancelotti, pas sûr que ça marche.
Non, mais aussi, moi, je pense qu'il y a un aspect qu'il faut souligner qui est aussi important, c'est le vécu de l'entraîneur. Quand en face, vous avez un entraîneur comme Carlo Ancelotti.
Il a combien de Ligue des Champions, lui, déjà?
En joueur et entraîneur, les deux.
En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, tout ce qu'il a gagné.
Non, puis là, par exemple, sur City, c'était sidérant ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, c'est quand même, il y a la patte Ancelotti par derrière.
Mais bien sûr. Et puis, il dit qu'il y a aussi le fait que les joueurs, parce qu'il y a aussi un aspect important, comme il dit, c'est qu'il faut que les joueurs acceptent de jouer comme ça. Parce que c'est les premiers sur le terrain. C'est eux qui sont, s'il faut aller ou il faut défendre. Mais les dissuader, les persuader que c'est la meilleure façon de jouer et de gagner. Souvent, on sait qu'avec certains joueurs, ce discours-là n'a pas souvent marché.
Mais là, quand il dit « je les laisse faire », c'est-à-dire qu'il leur dit « il faut faire comme ça, maintenant vous faites ce que vous voulez sur le terrain ».
Moi, je ne pense pas qu'il les laisse faire. Honnêtement, ça serait trop facile.
Tout est hyper contrôlé. Je pense que ça vient un petit peu des critiques. Il y a beaucoup de monde qui dit encore que le Real Madrid, c'est une équipe qu'il peut jouer sans entraîneur. Parce qu'il y a tellement de ses stars et tout ça. Et on dit ça que c'est relativement facile. Mais Carlo Ancelotti, c'est vraiment l'entraîneur qui touche énormément la psychologie des joueurs. On a parlé, c'est le même débat qu'il y a eu ici, à Paris Saint-Germain, pendant pas mal d'années. Ouais. Ça veut dire que c'est un entraîneur qui est capable de dominer et contrôler les égos à l'intérieur d'un vestiaire avec beaucoup de ses stars. Et Saline, il vient de dire, il y a un moment donné, qu'il était étonné de voir comment les joueurs se sont sacrifiés. Voilà, ça c'est Carlo Ancelotti, parce qu'il est capable de convaincre les joueurs de se sacrifier. Il descend vraiment sur terre. Pour devenir un joueur normal.
Carlos, racontez la séance de tir au but de l'autre fois, parce qu'il y a eu plein de petites anecdotes autour de ça.
Il y a eu pas mal.
Et qui montre, aussi la patte Ancelotti.
Oui, parce qu'Ancelotti, il avait choisi, voilà, c'était Davide, c'est son fils qui l'a tout contrôlé.
Quand il y a eu la séance de tir au but à Manchester City, voilà, donc on en arrive là, il l'avait envisagé.
Voilà, et Carlos, il avait vu, il a dit, un des pénaltys, il a parlé directement avec Lenin, il faut pas que tu bouges, il faut que tu restes au centre. Tu choisis les pénaltys, préférablement les premières à l'audicième, mais tu ne bouges pas. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Il a eu des chances parce qu'après il a déclaré, il a arrêté les pénaltys à Silva.
Je pense. Non, devant Bernardo Silva.
C'était à Leonardo Silva, voilà.
Bernardo.
À Bernardo. Et c'est dans ces moments-là que l'équipe il a pris des puissances. Et il a retiré pas mal de joueurs. Valverde, qui hier il a déclaré à une conférence de presse qu'il n'avait pas la force de frapper.
Plus l'apport de force physique.
Et l'autre, c'était Militao, qui l'a dit, « Mister, je ne peux pas frapper parce que les gardiens, ils me connaissent, c'est comme un frère. Je frappe maintenant. » on peut devenir
on peut rater
ici une grosse occasion. C'est vraiment sont
tout
des vrais
calculé,
stars sont hyper calculés, mais sont des stars qui disent non, bah, comment je vais pas frapper les pénalties et tout ça machin, mais ils sont capables de dire ces modesties à l'intérieur de Real Madrid. Ils sont arrivés à être sur terre comme voilà, laisser de côté les stars à l'extérieur des vestiaires
dans
et
la
dire,
réalité.
Écoute, si c'est la réalité, j'ai peur, je frappe pas un pénalty, et si les types ils me connaissent, je frappe pas un pénalty. Et en plus l'entraîneur il a dit ok, très bien, je vais mettre des centrales comme il a mis deux centrales pour frapper les pénalties.
Carlos, est-ce qu'il n'y a pas un danger peut-être qui guette le Real Madrid ce soir et peut-être sur ces demi-finales, c'est d'être un peu trop en confiance parce qu'ils ont éliminé alors après ce que vous venez de dire, je reviens à ma question, mais peut-être que vous avez déjà répondu, mais en se disant on a éliminé le tenant du titre qui était en plus favori, hein, au début de saison, on dit City au-dessus.
Le Real Madrid, c'est une équipe qui connaît très bien la Champions League.
Royal, ça veut dire aussi la réalité.
Si, c'est la réalité, évidemment, parce que pour la Champions League, c'est complètement différent. Il y a beaucoup d'équipes qui sont des bonnes équipes, qui tiennent au début de la compétition. On dit, avec cette équipe-là, on peut arriver en demi-finale, en quart de finale, même en finale. Et ce n'est pas ça, la Champions League. La Champions League, c'est une régularité, c'est l'état physique des joueurs, savoir bien arriver au mois d'avril. Et ça, ce n'est pas toutes les équipes qui peuvent faire une préparation physique par rapport à ça.
Mmh. Et la après préparation à l'italienne.
Peut-être que c'est italien mais le Real Madrid, il a toujours, toujours vissé sur les mois de mars. Hein. On parle de ça à Madrid parce que quand on démarre la Champions League, on voit des équipes qui mettent 5, 6, 7, 8 au mois d'octobre.
C'est pas le genre
de cette équipe-là, attention.
Mais ils ont perdu aucun match, en tout cas, depuis le début de cette Ligue des Champions. 7 victoires, 3 matchs nuls.
Ils ont beaucoup de respect pour toutes les équipes, parce que s'il y a quelque chose que Carlos Ancelotti aurait dit à ses joueurs, c'est de respecter le contraire. Donc je ne pense pas que c'est une équipe, et en plus en Allemagne, je te rappelle, ce que Bayern de Munich, il était la bête noire, même si les derniers matchs de Real Madrid, il a gagné au Bayern, ça tient... Je pense que la prudence, il y a quelque chose qui
il y a plein de liens en plus entre ces deux clubs, parce que Carlo Ancelotti a été l'entraîneur du Bayern un moment, et ça s'était pas super bien passé. Toni Kroos, il est parti du Bayern un peu déçu, ils l'ont laissé partir et finalement c'est une immense réussite du côté du Real. Et puis on a donc ces deux équipes qui se sont si souvent rencontrées. Comment vous voyez la rencontre alors de ce soir finalement pour terminer Benjamin sur cette discussion.
C'est
maintenant
dur.
Qu'on a fait le qu'on a mis tout en
ce contexte. Bon courage, Benjamin.
C'est maintenant que je vais parier avec mon téléphone.
Tous les trois vont avoir droit à la question. Vous êtes pas le seul.
Non, mais je sors du studio.
Non, mais franchement, c'est pour moi, c'est indécis. J'arrive pas à me situer dans ce match-là. Souvent, j'ai souvent eu des avis un peu tranchés, des positions bien prononcées. Mais là, sur ce match-là, je ne saurais même pas vous dire qu'il sera capable de dominer. Mais pour moi, c'est du 50-50 à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au vu de ce que le Real a montré, au vu de ce que le Bayern aussi est capable de faire, même si on l'a dit tout à l'heure qu'en championnat, c'est difficile, mais c'est un Bayern à deux visages. Il y a un Bayern en championnat et un Bayern en Coupe d'Europe. Donc, c'est pareil pour Dortmund aussi, parce qu'en championnat, ils sont largués. Je sais que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais quand on les voit jouer en Champions League, c'est une toute autre équipe. Mmh. Une toute autre équipe. Donc, pour moi... je pense que peut-être Carlos et Salim pourront me répondre. Mais
il fait une passe décisive, Salim.
Mais je vais la prendre, cette passe décisive, et je vais dire que le Real est devant pour moi.
On l'avait dit déjà tout à l'heure, c'est vrai.
Encore une fois, vous
restez dans votre logique.
Oui, c'est que ce Real Madrid, au-delà de la confiance ou d'excès de confiance, on verra si c'est le cas ou pas, évidemment que le Bayern peut gagner, mais qu'on ne veut pas, année après année, on n'arrête pas de dire « Ouais, mais là, c'est peut-être l'année de trop pour le Real. Ah, là, quand même, est-ce qu'ils ne sont pas trop en confiance par rapport à l'année d'avant ? Là, ça a été compliqué en quart de finale. » Ça se trouve, ils vont être éliminés. Mais franchement, avec Carlo Ancelotti, avec Vini, avec tant de joueurs comme ça qui sont là, je ne vois pas comment le Real pourrait, avec un match retour en plus, être éliminé. Non.
Carlos.
Je ne vois pas l'éliminatoire fermé aujourd'hui. Ça veut dire que ça reste ouvert pour les matchs de retour. Ça, c'est clair pour moi. S'il y a quelque chose que je peux dire, c'est que le Real Madrid, il est un petit peu fatigué avec tout l'effort qu'il a fait dans les dernières semaines. C'est vraiment, il n'arrive pas vraiment à top de top force. C'est ça qu'il doit profiter les Bayern à un moment donné.
Mais est-ce que dans ces matchs-là, la fatigue compte? Parce que au sorti du match contre City, ils avaient le classique courageux contre Barcelone.
C'est vrai.
Et on disait qu'ils vont être fatigués parce que contre City, ils ont beaucoup couru. Ils ont allé en prolongation au tir au but. Mm-hmm. Et moi, quand j'ai vu le match...
Non, mais on les a vus terminer avec des crampes, mais rester sur le terrain.
Ouais, mais même contre Barcelone...
En revanche, Benjamin, pour aller contre toi, entre guillemets, ce week-end, il y avait Real Sociedad et Real Madrid. Sur le 11 de départ, il n'y avait que deux joueurs habituellement titulaires. Sinon, tous les autres, c'était des Arda Güler, José Lu, etc. Même Kepa était dans la cage.
Ils seront prêts aujourd'hui.
Ben voilà,
ils sont reposés.
Il faut penser à la semaine prochaine aussi. Donc voilà, avec les titres déjà dans la poche,
ça aide énormément.
En plus, c'est Cadiz ce week-end. Donc, a priori,
c'est tranquille.
Voilà.
Les amis, une petite surprise pour terminer cette page sur le Real Madrid.
Tu vas voir Anelka ? Il a mis un but face au Bayern de Munich.
Oui.
Personne ne se rappelle.
En demi-finale.
Bien sûr, en 2000.
Il a fait très peu au Real Madrid, mais un des buts clés d'Anelka.
En demi-finale.
C'était face au Bayern.
Absolument. Lorsqu'il gagne l'année.
Ses deux seuls buts, c'était contre
le Bayern. Lorsqu'il gagne la Ligue des Champions en 2000.
C'est couru quand même. On va écouter
Anelka. Mais la surprise, c'est pour ceux qui... Pas pour ceux qui l'ont déjà vu sur notre page Facebook, parce qu'il y a déjà eu énormément de vues sur notre page. Mais il y a un Melengue qui sait que nous existons, qui nous a salués. C'est un ancien défenseur de Stuttgart et qui connaît bien l'un des amis de Radio Foot.
Hi guys, yes, I'm doing really well. Please follow my bro's videos. RFI Radio. Hala Madrid.
Hala Madrid. Il salue donc un de ses frères qui travaille sur RFI à Radio Foot. Et c'est Antonio Rudiger qui est ami de notre camarade ici, Ibrahima Traoré. Ils ont joué ensemble à un moment du côté de Stuttgart. Et vraisemblablement, ils se sont appelés hier soir avant le match. Ibrahima a plus de petites dernières infos. Hein. Mais en tout cas, il a pensé à demander à Antonio Rudiger de nous saluer. Et ça, c'est super sympa. Donc, rendez-vous dans la deuxième émission tout à l'heure à 21h10 temps universel, 23h10 heure de Paris pour le débrief. Et qui y aura dans notre débrief? Devinez. Un Melengue fou de notre entourage.
Rémi N, je sais pas quoi là.
Oh non.
Avec toutes ces expressions. Bah ouais, merci alors.
Ah, mais il est, quand il analyse le
Real. Il y a un proverbe.
Le Real, il est très intéressant.
Mais évidemment.
Il y a un proverbe espagnol qui dit.
Non, il est grave pour ce soir. Je vais pas les dire parce que sinon je vais. Il va se fâcher contre moi.
On laissera Rémi le dire, mais Rémi sera là. Et je peux vous dire que quand le Real joue, il a l'œil et il tremble toujours.
Tu sais qu'il y a l'œil aussi qui tremble beaucoup et que c'est les... Tout la presse espagnole aujourd'hui, il parle de lui, Rafa Nadal, parce qu'il va jouer au même moment qu'il est Real Madrid toujours. Il est vraiment les supporters.
Donc en gros, il va faire en sorte d'être éliminé en 10 minutes. Il va déjà le forfait. J'ai mal au bras, je ne peux pas.
Je pense qu'il va faire ça.
Il va expédier son match.
Mais tout le monde parle de ça aujourd'hui. C'est incroyable. Oui.
Rafa Nadal, oui, le Real a tellement de supporters de par le monde. Allez, on a parlé de Ligue des Champions, et bien on va parler Ligue des Championnes.
Ballon pour le pied gauche de Bacha, la frappe et le but de Selma Bacha. Première frappe cadrée, troisième minute de jeu et le premier but pour l'OL. Avec Duvernay, le but d'un Messi, Duvernay. C'est l'OL qui passe devant. L'OL retrouve la finale de la Ligue des Champions, et ce, pour la 11e fois de son histoire, pour aller défier les championnes d'Europe, le Barça.
Et oui, sur un autre air, hein, puisque ces championnes, cette Ligue des Champions a son propre hymne. Voici donc l'OL en finale. Encore l'OL, pourrait-on dire, pour ce club qui disputera sa 11e finale de cette compétition, dont 8 victorieuses. Elles retrouveront encore le Barça pour la 3e fois. Ça sera toujours en territoire espagnol, mais ça ne sera pas en terre catalane. Ça sera au Pays Basque, à Bilbao, à San Mamés. Alors l'équipe de Lyon a dû batailler pour celui-ci en finale, car le PSG a été difficile à éliminer. Elle allait Lyon, victoire 3-2 avec un match de dingue, parce qu'elle marque 3 buts en 6 minutes. Ouais. Et on se dit, mais comment le PSG a pu encaisser ça? Et puis... elles ont gagné au Parc sur le score de 2-1, mais c'était aussi à la 81e minute. Ces deux équipes qui ont une force assez similaire quand même en Ligue des Champions, Salim.
Oui, même si, et cette année on l'a vu en France d'ailleurs, Lyon a quand même montré beaucoup plus d'assurance. Parce que ces dernières saisons, et ça avait été souvent ça, on avait vu un rapproché du PSG sur l'Olympique Lyonnais, notamment lorsque Sonia Bonpastor est arrivée à la tête de Lyon. On a senti qu'elle voulait remettre certaines choses en place, une autre manière, une autre politique à Lyon, avec notamment une montée de la formation lyonnaise. Et c'est pour ça que le PSG en a profité pour faire un rapproché, pour parfois même passer devant. Mais là, autant les scores sont serrés, autant dans le jeu, et notamment sur le match retour, on a quand même vu une équipe lyonnaise qui était dans la maîtrise, malgré tout. Parce que c'était au PSG de gagner, au final, c'était au PSG d'attaquer. Lyon n'avait qu'à attendre, au final, et Lyon a réussi à en profiter. Donc, sur les deux rencontres, sincèrement, la qualif de Lyon est loin d'être volée.
C'était pas acquis, mais c'est vrai que.
C'était pas acquis. Je pense que Paris peut avoir des regrets, notamment lors de ce match aller où tu gagnes 2-0 et tu prends 3 buts en 6 minutes. Bah, c'est où la différence a été faite. Et puis, à l'expérience aussi des joueuses, hein, quand on voit l'équipe lyonnaise, honnêtement, on sent qu'il y a une certaine forme de maturité.
Et dans les moments clés,
on parlait de ces buts qu'elle marque quasiment dans le money time de chaque match. Bah, ça montre la qualité et surtout le mental qu'a ces joueuses-là de toujours faire la différence dans ces moments clés. Et je trouve que c'est où Paris a pêché, notamment sur ce match retour, même si, encore une fois, pour moi, Paris se rapproche une fois de plus de Lyon, mais il y a encore quand même quelques étages.
Salim, les Lyonnaises, quand même, on avait l'impression que tout ce qui se passait autour du club, en plus, elles ont été détachées de cette Olympique Lyonnais. Désormais, elles sont un peu satellisées, elles ont été indépendantisées, elles appartiennent à un autre investisseur. Bon, on a un Américain là, qui détricote un peu tout ce qu'avait fait Jean-Michel Aulas jusqu'à présent. Mais on avait la sensation qu'il y avait une usure du côté des Lyonnaises. On voit qu'il y a quand même, je dirais, toujours les mêmes un peu que sont Wendy Renard, que sont Le Sommer, que sont toutes ces joueuses importantes internationales, mais qu'il y avait une usure. Et là, peut-être qu'il y a un retour d'énergie.
Justement, en fait, l'usure que vous évoquez, on l'a vu par le passé, dans un passé récent, justement, où Lyon n'arrivait pas à atteindre la finale ou la demi-finale simplement de Ligue des Champions, était même battu parfois en championnat. Je rappelle que cette année, sur les 21 premières journées, il n'y a pas eu de défaite en championnat pour le coup. Donc, au moins, Lyon a réussi à faire ce qu'il fallait, justement, dans ce championnat. Et j'insiste, il y a eu plusieurs éléments clés.
Au-dessus des autres que bon.
Mais par le passé, et dans un passé récent, ça n'a pas été le cas. Parce que vous avez évoqué ce changement de propriétaire, il y a un changement de coach, il y a un changement de politique. Alors attention, il y a certaines joueuses qui sont là et qui sont des stars, qui touchent de très gros salaires, qui sont toujours présentes, mais maintenant Lyon veut intégrer de plus en plus ces jeunes, parce que le bassin Rhône-Alpin est un bassin où il y a un centre de formation de dingue. Il y a énormément de joueuses qui montent vraiment dans cette région-là. C'est peut-être la région où il y en a le plus, hein, pour le coup. Et dans cette région-là, ben, on les prend petit à petit à Lyon, et très rapidement d'ailleurs, pour les intégrer à l'équipe première. Et ça, par rapport à un passé pas si lointain, ça change, parce que là où il n'y a pas si longtemps, on avait très peu de Françaises au final dans le 11. Vous les avez évoquées, Renard, Le Sommer, et c'était
après
quasiment
venir,
tout.
Les stars américaines, norvégiennes,
allemandes, scandinaves, etc. Mais là, de plus en plus dans le groupe, alors pas forcément que sur le 11, mais dans le groupe au moins, ne serait-ce que sur le banc, on a de plus en plus de Françaises. Lyon pense autrement, Lyon pense, entre guillemets, bleu, blanc, rouge. J'exagère un peu, mais pense plus français et ça prend du temps, forcément, ce centre de formation. C'est pour ça que sur les 2-3 dernières saisons, vous avez cette sensation d'usure qui peut-être, ben, ça paye en ce moment et ça paiera encore plus peut-être à venir, mais l'usure est moins présente.
11 finales de Ligue des Champions, même s'il y a beaucoup d'inégalités entre les championnats et les clubs, et c'est ce qu'on... Ce qui peut-être minimise parfois les exploits dans le football féminin. Mais Benjamin, c'est quand même énorme, non ? 11 finales de Ligue des Champions.
Bah oui, c'est énorme. Moi, je pense qu'il faut surtout souligner et remercier même Jean-Michel Aulas, parce que c'est grâce à lui, c'est lui qui a porté ce football féminin-là jusqu'à haut, qui a investi pour que Lyon puisse avoir une équipe féminine. Et aujourd'hui, il est récompensé. Elles sont récompensées par ce travail-là. Salim le disait à juste titre, c'est bien d'avoir aussi l'idée d'investir dans la formation, de faire progresser les jeunes joueuses et de les faire goûter à ce championnat-là et puis à des compétitions européennes. Et je pense aussi qu'ils ont aussi pris, ils ont pris Diani au PSG.
Absolument.
Qui apporte un plus aussi à cette équipe. Donc en plus, il y a l'absence de Castellino qui a été blessé pendant un long moment, qui revient aussi au bon moment.
Absolument.
À un moment donné où elles vont jouer la finale de la Champions League, je crois que cette équipe a des arguments à faire valoir contre Barcelone.
Alors Carlos,
là je peux
il y a des filles en face.
Oui, je peux pas dire grand chose sauf que le Barça il a tout gagné cette année. Il a au moins l'Espagne, c'est l'équipe terrible. C'est
mais alors, l'équipe ce terrible. Revenons juste sur le scénario de des demi-finales. Incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que incroyable. Le Barça perd à domicile sur le score de 1-0, mais ça compte plus double non plus chez les filles, donc c'est quand même pareil UEFA. Et elles partent à Chelsea, qui est une des équipes aussi montantes en Europe, et elles réussissent à aller arracher leur qualification à Chelsea. C'est quand même un exploit, là.
C'est un exploit, mais c'est une équipe qui a beaucoup de force à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que la colonne vertébrale, c'est l'équipe championne du monde, d'abord. D'accord.
Le football féminin espagnol, on commence à le connaître.
Voilà, le foot espagnol féminin, c'est vraiment, il est en état de grâce. Maintenant, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Tu te rappelles quand on était au Qatar, qu'il y avait une fille très sympa qui s'appelait Linda Caicedo. C'était vraiment une colombienne, c'est la petite star du foot féminin. Il est parti rapidement au Real Madrid. C'est-à-dire que Florentino, il a essayé de construire cette année une équipe avec les meilleures joueuses du monde. Il n'était pas capable. Vraiment pas capable. C'est pour ça que ce qu'ils ont fait à Lyon, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Il faut des temps, c'est comme les plantes. Il faut arroser, il faut attendre, et après il faut gagner les fruits. Donc exactement pareil. Et même si les grosses équipes européennes, ils forcent d'avoir une grosse équipe féminine, ils ne sont pas capables au Barça. Une petite anecdote, pour revenir au début de l'émission, les seules équipes qui a gagné au Barça en Espagne, c'était Levante. Le Levante féminin, qui c'était une bonne équipe. Non, c'est une bonne équipe qu'il a joué.
C'est
vraiment, on part par des hommes, mais les femmes, mais c'est une équipe. Depuis longtemps, c'est une équipe.
Non, mais parfois, il n'y a pas d'équipe masculine, je pense à Fleury ou des choses comme ça, et il y a des équipes féminines qui sont très fortes.
C'est les seules équipes. Donc, vraiment, le Barça, c'est une bête noire. Il peut se faire perdre un match qu'il récupère. Il y a tellement de conscience dans les joueurs, tellement de qualité à l'intérieur. Il t'a la bombe bâtie. Vraiment, il y a beaucoup de bons joueurs à l'intérieur.
Je précise, en fait, c'est vrai que ce match retour, elles ont marqué très rapidement pour égaliser sur l'ensemble des deux matchs. En plus, il y a eu un rouge très rapide aussi à Chelsea, donc en supériorité numérique, elles ont réussi à marquer ce deuxième but. Mais le Barça actuel, me fait de plus en plus penser au Lyon qui trustait les Ligues des Champions il y a quelques années. Je veux dire par là où par le passé, le Barça était, entre guillemets, que espagnol, de plus en plus d'étrangères viennent du sol parce que le Barça fait de plus en plus, ou récupère de plus en plus ses grandes joueuses scandinaves, anglaises, et Lucie Bronze qui est arrivée à Barcelone. Donc le Barça est en train de faire ce que Lyon a fait par le passé. Alors vous allez me dire, ça a marché puisque Lyon on a gagné plusieurs de suite. Est-ce que le Barça le fera aussi au détriment de ses Espagnols, parce que ça va compter aussi. C'est ce qu'on a souvent critiqué auprès de Lyon et même du PSG, c'est d'attirer ses stars et au final l'équipe nationale n'en bénéficiait pas. Alors vous allez me dire, l'Espagne a gagné la dernière Coupe du Monde, mais il n'y avait pas que des Barcelonaises, il y avait une grande colonne barcelonaise, mais quand même, si maintenant vous commencez à faire jouer les étrangères et plus les Espagnols, est-ce que le niveau de l'équipe nationale va baisser ou pas? Ça sera l'une des interrogations à venir dans les mois et les années à venir.
C'est Benjamin qui fait les pronostics, donc pas moi.
Alors Benjamin,
J'aimerais bien une victoire de Lyon, mais je pense que Barcelone va gagner.
Elles vont jouer en Espagne en plus.
Ouais.
C'est peut-être un petit plus qui peut aider.
Plus,
mais ouais.
Oui, c'est un gros plus.
Mais c'est leur troisième confrontation.
Ouais, c'est ça.
Pour l'instant, les Lyon avaient toujours gagné.
Ouais.
Et c'est leur quatrième finale, je crois, au Barça. Donc c'est vraiment...
C'est ce club-là. Hein. Et les Barça, qui économiquement, il passe par...
Il ne va pas trop bien.
Il ne passe pas par un bon moment.
Mais ça coûte moins cher le football féminin.
Oui, mais même si ça coûte un petit peu moins cher, c'est vraiment... équipe compétitive.
Oui, elles sont moins payées les filles en général, hein, n'est-ce pas? En tout cas, ça sera le 25 mai prochain cette finale de la Ligue des Championnes. Celle qui a inscrit le but des Parisiennes dimanche après-midi en demi-finale, elle s'appelle Tabitha Shawinga. Elle vient d'être désignée dans les récompenses annuelles meilleure joueuse du championnat de France féminin. Elle est née au Malawi. Elle est prêtée pour l'instant au Paris Saint-Germain. Elle vient de Chine, du club de Wuhan,
Wuhan.
Comment on dit?
Wuhan.
On a un spécialiste de la Chine, j'avais oublié, Benjamin, bien sûr. Et c'est où cette ville d'ailleurs? Bah, c'est loin de Pékin.
Dire, je connais pas la carte de la, c'est loin, de c'est la Chine, mais
ouais, c'est, pardon, c'est pas là où vient le Covid.
Non, 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 c'est pas la ville d'où vient le Covid. COVID, hein.
Voilà, c'est
mais
ça.
Voilà, on
c'est...
les a, on les a bah, pas bah, dit oui, en fait.
C'est ah, ça. C'est la ville.
C'est, j'ai vu, c'est retenu. On s'est dit, attends, on va pas parler de ça. On va parler d'autre chose.
Tu dois connaître cette ville par cœur.
Ouais, c'est ça.
Mais avant ça, elle a été dans une autre ville et j'ai eu l'occasion parce que j'étais aussi dans le même club à Suning, Jiangsu Suning. Mm-hmm. Donc moi quand j'y étais, elle était aussi avec les féminines là-bas et c'est une joueuse que j'étais allé voir une fois parce que j'étais allé voir un match des féminines et tout de suite elle m'avait tapé à l'œil de par sa puissance, sa qualité technique et surtout elle est tellement à droite devant le but et malheureusement elle a dû partir parce que cette équipe-là a dû déposer le bilan, a fermé, donc c'est pour ça qu'elle se retrouve à Wuhan.
Ouais.
Et je crois que derrière, il va à l'Inter, qui a le même propriétaire que Suning, où on était. Et elle a été prêtée, je crois, aussi, là-bas.
Exactement.
Et je n'ai pas compris pourquoi ils ne l'ont pas gardée. Mais en tout cas, c'est bien pour Paris qu'elle soit là.
On va l'entendre parce qu'elle est très timide, mais elle a quand même déclaré qu'elle était heureuse de cette première saison fulgurante avec le Paris Saint-Germain, 18 buts et 10 passes décisives en 19 matchs. Franchement, je ne m'y attendais pas. Ce championnat est relevé. Chaque joueuse fait des efforts pour l'équipe, y compris la meilleure, pour obtenir quelque chose. Ce trophée fait du bien à tout le monde, du numéro 1 au numéro 10. C'est une bonne chose pour moi et pour mon pays. C'est beaucoup d'espoir. Ce n'est que le début. J'espère qu'un jour, je remporterai le Ballon d'Or. C'est en gagnant ce type de récompense qu'on atteint ses objectifs dans la vie. Ce club est comme une famille pour moi. J'espère en faire partie la saison prochaine. Elle est donc timide, mais évidemment super heureuse. Et une de ses copines a dit « Non, mais il faut qu'elle reste !» Et d'ailleurs, le Paris Saint-Germain serait en train déjà de parler avec son agent. Ouais.
Le truc, c'est lorsqu'elle est, vous évoquiez l'Inter, à l'Inter, elle était incroyable. Meilleure buteuse de la saison à l'Inter, lorsqu'elle avait marqué 23 buts lors de la saison en championnat, 25 toutes compétitions confondues. Et c'est vrai que le fait que l'Inter ne réussisse pas à la garder, on se dit « Bon, elle est obligée de retourner en Chine, quel club va réussir à se le faire reprêter ?» Et que le PSG est réussissent à la récupérer, c'est une chose. Là, elle est meilleure buteuse et a priori, elle va le rester sur les dernières rencontres à venir avec les play-offs. Alors, elle bénéficie de deux choses. C'est vrai que les grands noms du championnat français sont en retrait. Les Egerberg, les Le Sommer, Katoto, etc. Mais bon, c'est pas parce que les autres sont en retrait que vous, ça vous facilite pour marquer autant de buts. Donc, certes, les autres sont en retrait, mais elle a réussi à s'affirmer dans une équipe du PSG qui est, j'insiste, un petit peu en dessous par rapport aux dernières saisons. Donc, réussir à faire ce qu'elle fait, c'est juste colossal, vraiment. Mm-hmm.
Et cette joueuse, en plus, elle se retrouve dans cette équipe donc à ne pas trop savoir où atterrir l'année prochaine. Mais pour l'instant, elles ont à jouer la Coupe de France, la finale de la Coupe de France. Ça sera le 4 mai contre Fleury.
Samedi, hein.
Exactement, samedi. Et puis, il y a ces play-offs, là, tournoi final. Mais théoriquement, quand même, le Paris Saint-Germain devrait pouvoir la conserver.
Absolument.
Elle a envie, apparemment.
Je pense qu'elle s'éclate ici. Et à un moment donné, quand on a bougé, comme elle a beaucoup bougé, on a envie quand même de se stabiliser.
Ouais, absolument.
Elle va être à Paris, dans un bon club, avec un bon projet, et puis avec des bonnes joueuses comme Katoto, quand elle retrouvera son niveau.
Totalement.
Je pense que les deux devant,
Totalement.
Ça peut faire très
C'est
mal.
C'est vrai.
Je ne pense pas que ce soit un problème de l'argent, non?
Non, je pense pas.
En plus, avec tout ce qu'ils vont toucher avec Mbappé, c'est des pouvoirs.
Alors, est-ce que les budgets se mélangent? Là, il faudrait poser la question. C'est comment le foot féminin, en quelques mots, en Chine?
C'est moins développé qu'en France, notamment. Mais voilà, c'est comme le foot masculin aussi. Il y a beaucoup de boulot à faire, mais voilà.
On y a cru à un moment donné avec la Chine au début des années 90. Je rappelle que lors de la première et deuxième Coupe du Monde, elles font finale de la Coupe du Monde.
Ouais.
Donc on pensait que, malheureusement, contrairement aux États-Unis ou d'autres pays, ça n'a pas suivi.
Les amis, merci beaucoup. Bon match à chacun, hein, n'est-ce pas? Ça va être chaud ce soir. Et nous, on se retrouve juste après
le match.
On
doit finir tôt, il n'y aura pas de prolongation. Bonne nouvelle pour toi.
Ce soir, c'est ça. À tout à l'heure.